Chapitre 18e, la petite maison de Nuremberg. Dans la soirée, et tandis que M. de Chauxfontaine se promenait de long en large, exhalant sa rage par des paroles entrecoupées, devant la maison qui leur avait été assignée pour logis, un page se présenta et il l'invita discrètement à le suivre. « Où veux-tu me conduire ?» demanda Renaud, qui n'avait pas l'esprit disposé aux aventures. « Dans un lieu où vous ne serez pas fâché de vous rendre, » répondit le page. Carquefous, qui grignotait une aile de perdreau dans le voisinage, leva le nez. « Monsieur le marquis, mais avis que ce pays n'est pas sûr au coucher du soleil. On raconte par ici des histoires farouches de démons et de lutins, auxquels se mêlent volontiers quelques sacripants. Restez au logis. »« Il s'agit de mademoiselle de Pardaillan, » murmura le page à l'oreille de Renaud. « Hé, que ne parlais-tu plus vite? Marche, je te suis. » Renaud ne marchait pas. Il courait sur les traces du messager qu'il forçait de hâter le pas. Carquefous jeta l'os qu'il rongeait. « Il serait si facile cependant de dormir, » dit-il. Il se leva en soupirant et suivit de loin son maître, qui n'avait garde de retourner la tête. Il le vit sortir de la ville, s'enfoncer dans un chemin creux, gagner un petit bois au milieu duquel s'ouvrait une avenue, et disparaître subitement sous la porte d'un pavillon qui donnait sous une voûte épaisse de feuillage. Carquefous fit le tour du pavillon en rasant la futaie. Aucun filet de lumière n'en sortait. Portes et fenêtres, tout était fermé hermétiquement. « fit Carquefous. « On dirait la maison d'une fée ou le repère d'un ogre. » Il s'adossa contre un arbre en face de la porte par laquelle son maître venait d'entrer dans le pavillon et attendit. « Au moindre bruit, tant pis, » reprit-il à voix basse. « Je monte à l'assaut. » Renaud, cependant, gravissait un escalier sombre. Le page le tenait par la main, et il sentait sous son pied un tapis qui étouffait le bruit de ses pas. Le cœur lui battait à l'empêcher de respirer. « Diane, je vais revoir Diane, » pensait-il. Une porte s'ouvrit, et dans un boudoir éclairé par une lumière timide, il aperçut Madame Digomère. Renaud recula. « Une femme vous fait donc peur, monsieur le marquis ? » dit-elle. « Je croyais qu'il s'agissait de mademoiselle de Pardaillan. C'est une trahison !» s'écria Renaud. « On ne nous a pas trompés, c'est bien de mademoiselle de Pardaillan qu'il s'agit. Mais je ne sache pas qu'on vous ait dit que vous la verriez. » Tout en parlant, Madame Digomère tremblait. Jamais Renaud ne l'avait vue si pâle et si défaite, même au jour où il l'avait saluée pour la dernière fois dans le château de Saint-Vaast. Cette femme vindicative, qui obéissait à toutes les inspirations de la haine, semblait avoir perdu presque toute sa force. La robe blanche qu'elle portait laissait voir l'agitation de son sein. La pâleur d'une morte couvrait son front et ses joues. Cependant, Renaud, qui la contemplait, soulevait encore de la main un des pans de la portière, comme un homme prêt à se retirer. « Que craignez-vous ? » dit Madame Digomère d'une voix douce. « Il n'y a qu'une femme et un enfant. » « Ah, cette femme, c'est vous !» dit Renaud. « Si vous voulez dire par là que de moi dépend le sort de mademoiselle de Pardaillan, c'est vrai. Mais il dépend de vous que demain elle soit libre. De moi ? Que faut-il faire ? Ah, tout bon sang ! Vous le donneriez pour elle, n'est-ce pas ?» poursuivit Madame Digomère en interrompant. « Je le sais, mais pourquoi me le dire ? Ah, vous prenez une mauvaise voie pour cicatriser la blessure qui saigne là. » Thécla tomba accablée sur un fauteuil. Son visage avait la couleur de la neige. Des larmes, elles n'étaient pas feintes cette fois, coulaient de ses yeux. Renaud s'empara de ses mains et les sentit frissonner entre les siennes. « Si vous voulez, » reprit-il, « j'emploierai ma vie entière à vous bénir. »« Écoutez, » répondit Madame Digomère, « je me croyais plus forte que je ne le suis, plus enracinée dans ma haine. Je vous ai vu, et je ne sais quelle flamme a subitement amolli ce cœur qui n'a battu qu'une fois. Que dis-je ? Ne sais-je pas quelle influence, quel charme l'a vaincu ? Toute cette émotion que j'avais oubliée m'a tout à coup embahi. De longs mois de deuil, remplis par l'esprit de vengeance, se sont effacés. Et de tout ce que j'ai souffert ou rêvé, de mes larmes d'ivresse et de désespoir, il n'est rien resté que vous. Un instant, Thécla se tut. Un mélange d'étonnement et de tristesse se répandit dans l'âme de Renaud. Il allait répliquer. Madame Digomère l'arrêta. « Connaissez-moi tout entière, » poursuivit-elle. « Ce que vous voudrez que je sois, je le serai. Je ne peux plus être, à présent, votre compagne de la vie, la femme fière de marcher appuyée à votre bras. Je serai votre servante, et nulle ne sera plus dévouée, plus humble, plus heureuse du sort que vous lui ferez. Si vous voulez que j'aime Mademoiselle de Pardaillan, je l'aimerai. Mais aimez-moi, ou, si cet effort vous est impossible encore, ne l'aimez plus du moins, et renoncez à cette pensée maudite de lui donner votre nom. Ne vous rappelez-vous rien, dites, et me montrez-je bien exigeante en vous demandant un peu de pitié? Rappelez-vous ces heures passées, l'un près de l'autre, pendant de longues nuits d'été. Rappelez-vous les serments d'autrefois. Ah, si vous en avez perdu la mémoire, mon triste cœur en est encore brûlé. Vous ne savez pas combien je vous aimais. Hélas, je ne le savais pas moi-même. Voyez ce que vous avez fait de moi et dans quel abîme je suis descendu. Ne devez-vous rien à celle que vous avez abandonnée et qui, sans vous peut-être, mais je ne veux rien vous reprocher. Je bénis ce mal qui m'a fait vous connaître, qui m'a fait vous aimer. Le bonheur que j'ai goûté jadis, je vous en demande l'ombre, le souvenir. À ce prix, il n'est rien que vous n'obteniez de moi. Mettez votre main dans la mienne. Jurez-moi que jamais Mademoiselle de Pardaillan ne s'appellera Madame de Chauxfontaine, et ma confiance ira jusqu'à vous dire « Elle est libre. »« Mais je l'aime !» s'écria Renaud. « Quoi ?» dit Madame Digomère. « Vous êtes chez moi. »« Elle n'est pas libre. Et vous osez ?»« Tenez, vous êtes bien téméraire ou bien fou ?»« Écoutez-moi à votre tour. Je vous en supplie. Que vous a-t-elle fait ?» N'est-elle pas innocente de tout ceci? Innocente, elle, qui vous a arraché de mes bras? Punissez-moi donc si vous voulez, mais épargnez-la. N'a-t-elle pas été pour vous bonne et confiante? Elle n'a pas 20 ans. Ne laissez pas sa jeunesse se flétrir dans les larmes. Et croyez-vous qu'elle seule ait pleuré? Ah, vous êtes implacable. Quoi? La beauté, l'innocence, le malheur ne peuvent rien sur vous? Pourquoi la frapper si je suis là? Quelle honte me proposez-vous? La trahir quand elle me dit « je vous aime » Ce mot, quelqu'un qui s'appelait Renaud, ne me l'avait-il pas dit? Ce dernier cri semblait rompre l'entretien. Madame Digomère s'est élevée. Cette expression que M. de Chauxfontaine lui avait vue au château de Saint-Vaast, de nouveau, il la trouvait tout entière sur son visage. Thécla ne gardait plus aucune trace des émotions qui tout à l'heure l'avaient attendrie. Renaud, sans répondre, fit un pas vers la porte. « Ainsi, dit Madame Digomère, vous ne renoncez pas à Mademoiselle de Pardaillan. Jamais. Alors c'est elle qui renoncera à vous. » Renaud se retourna, prêt à l'interroger. « Monsieur le marquis, je ne vous retiens plus, » reprit Madame Digomère, qui, frappant sur un timbre, donna l'ordre au page de reconduire Monsieur de Chauxfontaine. « Allons, » murmura Madame Digomère, « je laisserai faire Mathéus Halscope. » Renaud trouva Carquefou adossé à l'arbre qu'il avait choisi pour poste d'observation. « Tout va mal, » dit-il en répondant au regard interrogateur de Carquefou. « Monsieur, aussi longtemps qu'on est en vie, rien n'est désespéré, » répliqua l'honnête philosophe. Et comprenant que son maître n'était pas en humeur de causer, il s'enveloppa dans son manteau et le suivit silencieusement.